franceinter.fr.
C'est l'heure de la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Savez-vous Patricia, quel est le nom de famille le plus porté dans l'Hexagone?
J'ai pas Durand, pas au hasard, enfin j'en sais rien.
Non Patricia Martin.
Dupont alors?
Dupont avec un T, non Patricia Martin.
Bon, avec un D?
Non Patricia Martin, le nom de famille le plus porté c'est le vôtre, Martin.
Il y a plus d'un âne.
La France compte aujourd'hui quelque 250 000 Martins. Viennent ensuite les Bernard, puis les Thomas, puis les Petits. Durand et Dupont ne sont pas dans le palmarès. Sachant que cet engouement pour le nom Martin dépasse en outre nos frontières. Ainsi que nous l'explique Pascal Paillardet dans les colonnes de La Vie. Il y a 3 millions de Martins en Espagne, 73 000 en Grande-Bretagne, près de 60 000 en Allemagne. Et plusieurs milliers en Belgique, en Suisse, en Italie ainsi qu'aux Pays-Bas. Mais alors comment cela s'explique-t-il? Réponse d'une généalogiste, ce succès est indiscutablement lié à la figure de Saint Martin. Saint majeur de la chrétienté, très populaire au Moyen-Âge, lorsque sont apparus les premiers patronymes. Quand les noms de famille ont été forgés vers les 12e et 13e siècles, le tiers d'entre eux fut alors dérivé d'un prénom. Martin en premier lieu, et Bernard en second. Des noms de saints très populaires qui étaient considérés comme des protecteurs de l'enfance. Saint Martin, que l'hebdomadaire catholique a choisi de mettre à sa une cette semaine, avec une représentation qui le montre sur son cheval en train de découper son manteau d'officier afin d'en offrir la moitié à un pauvre grelottant pieds nus sur la route. C'était en 338 et à l'époque, ledit Martin était soldat en garnison dans la ville d'Amiens. Et c'est la nuit suivante qu'il a vu en songe le Christ revêtu du même manteau et lui disant « Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais », raconte l'Évangile. Plus tard, Martin vécut en ermite après avoir passé des années à courir les villes et les campagnes pour évangéliser la Gaule. L'année prochaine, les catholiques célébreront le 1600e anniversaire de sa naissance, mais ces célébrations débuteront dès la semaine prochaine, à l'occasion de la Saint-Martin, avec une messe à Tours et une marche jusqu'à la basilique Saint-Martin. La Saint-Martin, c'est le 11 novembre. Et la Saint-Bertrand, c'est le 6 septembre, Patricia Martin. Bertrand, nom de famille de la tête de liste du parti Les Républicains pour les régionales dans le Nord.
Xavier Bertrand, dont la campagne fait la une de la Voix du Nord, qui nous explique de quelle manière il fait payer ses colistiers.
L'article est signé Bruno Renoul et Sébastien Leroy. Son titre, pour être éligible sur la liste de Xavier Bertrand, il faut avancer 7 000 euros, soit le montant forfaitaire de participation aux frais de campagne demandé par le directeur de campagne, Gérald Darmanin, aux colistiers en position éligible. Et sur ce point, celui qui lui-même n'est pas candidat ne transige pas, même s'il reconnaît que la somme n'est pas négligeable. S'il n'y a pas le chèque de 7000 euros en face de votre signature, vous aurez beau être le roi de Chine, vous ne serez pas sur la liste. A même expliqué le député maire de Tourcoing lors d'une réunion interne le 10 octobre. Certains ont été choqués par cette exigence. Mettre un prix d'entrée, ça ne me choque pas, mais 7000 euros, c'est vraiment trop élevé, explique un militant des Jeunes Républicains du Nord. Pour plein de monde, c'est impossible de sortir une telle somme. Gérald Darmanin dit clairement que si tu ne peux pas payer cette somme-là, c'est au revoir. Mais avec ce principe, par exemple, on n'aura aucun jeune ou presque en position éligible poursuit ce jeune. Et de fait, la liste déposée mercredi compte quelques jeunes pousses. Mais elle fait surtout une large place aux élus déjà installés. 7000 euros pour figurer sur la liste de Xavier Bertrand.
Une autre liste continue par ailleurs de faire polémique.
Oui, c'est celle déposée par Dominique Régnier, tête de liste Les Républicains, en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Une liste qui ne correspond pas à celle qui avait été validée par les instances du parti. Dominique Régnier en a rayé deux noms, dont celui du secrétaire départemental du parti Les Républicains. Régnier, gentleman emmerdeur, titre aujourd'hui Le Parisien, tandis que Libération raconte comment Régnier a braqué Sarkozy. Aujourd'hui, l'ex-chef de l'État ne veut plus le prendre au téléphone et ses proches parlent d'une situation totalement surréaliste, d'un désastre pour la campagne s'il ne corrige pas sa copie, dit l'un d'eux. Régnier sera abattu sans sommation, politiquement, humainement et financièrement. Toutefois, Bravache, le politologue, sera présent ce samedi au Conseil national du parti consacré au scrutin régional. Un conseil qui doit ratifier les listes des candidats le jour de la Saint-Dominique, c'est le 8 août. N'empêche, ce devrait être aujourd'hui sa fête, Patricia Martin. De son côté, le Figaro rapporte que Nadine Morano assistait hier soir à sa dernière séance plénière au Conseil régional de Lorraine, sa dernière, car elle a donc été écartée par son parti de la liste qu'elle conduisait en Meurthe-et-Moselle. Hasard du calendrier, cette dernière séance tombait le jour de son anniversaire. Nadine Morano a eu 52 ans hier et c'est vrai, confidèle que ce hasard me fait un petit pincement au cœur. Mais j'ai reçu des tas de cadeaux, des fleurs, des chocolats et même des mots doux. On imagine que ces cadeaux et ces mots doux ne lui ont pas été remis par d'autres amis que des amis de race blanche. Et puis, pour revenir d'un mot sur les régionales dans le Nord, Challenge nous apprend que le socialiste Frédéric Cuvillier est persuadé qu'il arrivera à faire battre Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce que le jour de l'élection, dit-il, le 6 décembre, c'est le jour de la Saint-Nicolas. Et que ce jour-là, normalement, dit-il, on célèbre la générosité, la solidarité et l'esprit de partage. L'esprit de partage comme à la Saint-Martin, Patricia Martin.
Tous les journaux reviennent aussi sur l'annonce de Bernard Cazeneuve hier, réactiver le contrôle aux frontières à l'approche de la COP21.
C'est le dossier à la une du Parisien. La France renforce ses frontières, mais la mesure provoque, dirons-nous, le scepticisme dans les éditoriaux. Ainsi, dans l'Alsace, Raymond Courreau explique ce plan sécuritaire et surtout révélateur de la politique élyséenne. La réussite du sommet de la COP21 est un objectif prioritaire qui doit servir à sauver la peau de l'ours polaire et celle d'un président électoralement en péril. Nul ne doit troubler ce raout planétaire. Autre point de vue pour Didier Rose dans l'Alsace, et lui s'intéresse à l'espace Schengen, qui était censé ne pas accroître l'insécurité en Europe. Voir la France se claquemurer et donc contradictoire et désarçonnant, écrit-il, sauf pour les nationalistes qui trouveront là une validation de leur discours xénophobe. L'environnement fait la une de Libération ce matin, la COP21. Il n'y a pas que les mesures sécuritaires, il y a aussi le contenu. Et Libé ce matin s'intéresse aux plus jeunes. Comment expliquer le climat aux enfants, en l'occurrence, Libération liste différents ouvrages, des livres à destination du jeune public pour savoir pourquoi il faut faire attention à l'environnement, pourquoi c'est important de s'en préoccuper. Mais les plus jeunes, on peut par ailleurs les inciter à feuilleter le dernier numéro d'Alternative économique. Certes, c'est une lecture un petit peu pointue, mais le papier consacré au Bangladesh est tout à fait à leur portée. Le Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde et dans le même temps l'un des pays les plus exposés au dérèglement climatique. Au nord, il subit la fonte des glaces de l'Himalaya. Au sud, il fait face à la montée des eaux de l'océan Indien, sachant qu'une bonne moitié de la population vit à moins d'une centaine de kilomètres des côtes où frappent des cyclones de plus en plus violents. Il faut donc construire tout à la fois des digues et des logements plus résistants. Il faut de l'argent. Et ce sont uniquement les plus fortunés qui ont les moyens de se payer des habitations en dur. Conséquence, les victimes des catastrophes climatiques, ce sont donc avant tout les plus pauvres des pauvres. Pour sensibiliser les jeunes, on peut également leur glisser à l'oreille cette phrase de Geronimo, le célèbre guerrier Apache. Quand les forêts, le ciel et la terre seront vides, on se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Je répète parce que c'est formidablement bien dit, quand les forêts, le ciel et la mer seront vides, on se rendra compte que l'argent ne se mange pas. Citation piochée dans les colonnes de Society au cœur d'une interview donnée par l'acteur Pierre Richard, lequel confie qu'il est tout bonnement terrifié par la disparition des forêts de l'Amazonie. Les forêts, c'est d'ailleurs le thème du dossier de Mon Quotidien, le journal des 10-14 ans, qui ce matin se fait l'écho de cette invention étonnante. Un livre qui, quand on le plante, se transforme ensuite en arbre. Pour fabriquer des livres, on sait qu'il faut des arbres. Juste retour des choses et retour à la terre. Cette fois, ce sont des livres qui deviennent des arbres. C'est une initiative d'une maison d'édition située en Argentine, dont le responsable explique « Nous voulions rappeler aux enfants que la lecture est très utile pour apprendre de nouvelles choses et leur dire aussi qu'ils pouvaient agir eux-mêmes pour protéger l'environnement D'où l'invention de ce bouquin qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui part à l'aventure dans la forêt. Le titre du livre, c'est « Mon père était dans la jungle », un livre qui, une fois planté, se détruit peu à peu et libère des graines placées à l'intérieur. Il est possible que les livres devenus des arbres poussent à la Saint-Martin.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.